Il est presque 16h et on est toujours dans Change de disque, c'est KRL 89.1. On a beau vouloir l'éviter, mais on est bombardé de cahiers, de crayons de couleur. La rentrée, ça s'en vient. Mais la rentrée, ça veut dire rentrée culturelle aussi. Et pour ce qui est du côté littérature, le 28 août prochain, il y a Repentir de Richard Sainte-Marie qui sera disponible et il est avec nous pour en parler. Bonjour Richard.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
C'est toujours un plaisir de te réentendre.
Moi aussi. Je suis un peu chez moi ici. J'ai fait de la radio un bout de temps avec toi, même en même temps. Là. Puis à rentrer ici, ça me donne des souvenirs.
Ben, Richard, tu animais entre autres l'aérospatiale avec Jean-Pierre Gay, donc ça parlait d'art visuel. Et ton livre Repentir, on retrouve ton inspecteur Pagliaro qui est de retour, Francis de son prénom, mais t'as intégré les arts visuels dans ce roman.
C'est ça, lui c'est un homme cultivé. Le crime se passe dans une galerie d'art. Le galeriste est assassiné, puis en même temps, il y a un autre homme qui est mort dans la galerie, c'est un policier assez âgé. Qui n'a pas rapport, donc on se demande pourquoi un policier est mort en même temps. Donc, deux meurtres dans une galerie. Pagliaro, qui est un homme cultivé, c'est vrai, mais en art visuel, pas tellement. Alors, il va être surpris un peu en faisant son enquête, des choses que les gens vont lui dire, les témoins, les suspects, qu'il va visiter un après l'autre. Alors, il en apprend beaucoup sur les arts visuels, mais il apprend des choses qu'il ne pensait pas connaître. J'espère que le lecteur aussi va apprendre des choses qu'il ne connaît pas. T'sais, alors, j'ai roulé ma bosse, mais j'ai été prof pendant 30 ans en art visuel. J'en ai fait. Puis ici, à la radio, avec Jean-Pierre, on a interviewé plus de 600 personnes qui sont dans le domaine des arts plastiques, des arts visuels, autant des gens des musées, des artistes, des collectionneurs, des historiens, des spécialistes. Alors, j'ai eu aussi plein de renseignements pendant des années. J'ai tout noté ça. Toute ma vie à l'université, ben j'ai été témoin de choses, comme tout le monde. J'ai vu des choses pas tout à fait légales. J'ai même témoigné en cours supérieur puis en chambre criminelle pour des procès. Donc, j'ai vu un côté des choses et j'ai rassemblé tout ça, si tu veux, puis j'en ai fait, je l'ai imbriqué dans mon histoire de meurtre dans une galerie. Ce qui fait que je joue dans mes talles, comme on dit.
Mais est-ce que tu as toujours pensé qu'un jour, il allait avoir des arts visuels dans tes romans?
Non, je n'y ai pas pensé du tout. C'est mon troisième. C'est la troisième enquête de Francis Pagliaro. Mais tout d'un coup, ça m'est venu en écrivant le deuxième. Je me disais, ça serait le fun un jour d'en faire un qui se passe dans le milieu des arts visuels. Et j'ai commencé récemment, en janvier, j'avais commencé un quatrième qui se passe dans le domaine de la musique. Vu que j'ai été musicien aussi, j'ai joué au Cirque du Soleil. J'ai joué dans les bars-salons quand j'ai payé mes études avec ça. J'ai joué longtemps. Donc, j'ai commencé, mais j'ai comme perdu la foi dans ce livre-là. Alors, j'ai arrêté. Là, j'ai commencé une autre histoire. Mais c'est le fun de jouer dans des choses que tu connais. Il y a moins de recherches à faire.
Oui, hein, c'est ça. C'est plus facile d'y aller. Mais justement, ce que tu dépeins dans ton livre, c'est le moins bon côté des arts visuels, le côté plus criminel. Ouais. D'avoir été si longtemps dans le milieu, est-ce que tu avais peur d'avoir des réactions que les gens te disent « Voyons, non. Richard, tu sais que c'est pas juste comme ça? »
Je verrai parce que le livre n'est pas sorti. Il y en a quelques-uns qui l'ont lu et qui s'en disent enchantés. En tout cas, je suis bien content. Mais non, je pense pas. D'abord, je voulais faire une histoire. D'abord, c'est une histoire de crime. Bon, alors, si une histoire de, c'est un roman policier, ça peut pas être d'autre chose que du crime. Puis, quelle sorte de crime? Or, je me suis aperçu qu'il y avait, dans le domaine des arts visuels, c'est vrai, beaucoup de choses. Il y a des faux tableaux. Il y a des vrais tableaux, mais qui se font passer pour d'autres. Il y a des mauvaises attributions. Il y a des copies. Il y a des choses qui sont vendues comme des œuvres d'art alors qu'elles n'en sont pas. Il y a toutes ces manœuvres-là. Il y a du blanchiment d'argent. Par exemple, le policier La Coursière qui est devenu historien de l'art, il a dit une fois dans une descente de chez les Hells, écoute, il y a des millions sur les murs. On va saisir la drogue, les voitures, l'argent, mais aussi ce qui est mur. Ce qui est sur les murs, c'est du blanchiment. Là. Ça prend pas beaucoup de Picasso pour blanchir un million. Hein?
Non, ça va assez rapidement.
Ça va assez vite. Là. Plus c'est cher, moins ça prend de tableau. Alors tout ça, j'ai mis ça. Donc il y avait des choses que j'avais vues dans ma vie, mais même il y en a que c'est des gens que j'ai connus, les criminels ou les victimes. Mais en même temps, c'est une histoire. C'est un roman. Ceci n'est pas une pipe, comme on dit. C'est un roman. Donc, c'est vraiment jouissant parce que C'est comme conduire une auto qu'on a depuis longtemps. <t'sais>.
Mais Richard, si on parle un peu de la structure du roman, c'est en deux temps. On lit d'un côté, en fait d'un côté ça se chevauche, ça s'alterne. D'un côté l'histoire principale, donc l'enquête criminelle, mais on retourne aussi dans le temps, dans l'enfance d'un jeune garçon. Pourquoi tu as décidé de nous montrer comme ça l'enfance d'un des personnages?
Ben parce que j'avais commencé par ça. D'ailleurs, le livre commence avec ce petit garçon-là qui a 5 ans. Ça se passe dans les années 60. Et j'avais commencé avec ça. Puis tout d'un coup, c'est devenu le roman policier. Autrement dit, je suis parti sans plan. Ça m'arrive souvent. Je fais le plan en haut milieu ou au premier tiers. Puis là, après ça, même des fois, à mesure que j'avance, je change le plan. Mais en tout cas, c'est juste pour me guider. J'avais commencé avec ce petit garçon-là parce que, si tu veux, comment ça commence la vie d'artiste? Ça commence très tôt la vie d'artiste. À 4 ans, 5 ans, ça commence. Et lui, il voit les choses avec l'œil d'un artiste de 5 ans, de 6 ans, de 8 ans, de 14 ans. Bon, on va le suivre dans le livre jusqu'à à peu près 51 ans, en alternance justement, comme tu dis, avec l'enquête de police. Et ça me permet, d'abord c'est un côté plus humain qui me fait plaisir. Moi j'ai besoin de ça dans mon livre. Puis ça me donne l'occasion de décrire un peu c'est quoi la démarche artistique, comment ça procède, d'où ça vient. Chaque fois que c'est le petit garçon, il y a plus de couleurs, il y a plus d'observations visuelles. J'ai mis des choses, j'ai fait exprès pour que vraiment on voit comment ça pense un artiste. Il y a un bout à la fin, il y a une discussion entre des personnages et la discussion parle de justement c'est quoi la démarche artistique. Mais tout ça, c'est imbriqué dans le roman policier. Ça sert le propos de l'énigme. Autrement, ça serait du babillage. Mais moi, ça me permet de mettre de l'humanité. Moi, c'est très important pour moi là, dans mes livres qu'il y ait un côté humain comme mon Pagliaro est un homme correct. Il n'est pas alcoolique, il ne bat pas sa femme.
Il a une belle relation avec sa femme.
Oui, une belle relation, c'est ça. Puis c'est important c'est pour moi. Puis il est cultivé. C'est pas un voyou, c'est quelqu'un de bien. Et moi, j'ai besoin de ça, puis c'est mon livre après tout. Hein?
Oui, c'est toi qui décides.
C'est moi qui décide. Alors, ce petit garçon-là, je l'aime beaucoup, et il y a une partie de ça, on peut le dire même tout de suite, parce que c'est dans les premières pages. Le petit garçon, à 5 ans, il trouve son petit frère gelé sur la table de cuisine, parce que ses parents ont bu. C'est des morons, ses parents. C'est des sous-là dans le fond d'un rang de je sais pas où. Au fond, ben on le sait où, mais... Puis ça se passe dans l'ancien temps, dans les années 50, là, la vraie histoire, parce que c'est un peu calqué sur une vraie histoire. Il trouve son petit garçon, son petit frère, mort gelé, parce que les parents sont sous, puis ils ont laissé la porte ouverte, puis il fait moins 30, puis le poêle s'est éteint. Alors, c'est vraiment... C'est touchant. Puis après ça, on le suit, lui, tranquillement. Ça... Puis après ça, je lui donne aussi des stigmates, comme on dit. Il va avoir tout ce qu'il faut pour devenir un artiste, mais aussi autre chose. Mais ça, le lecteur va voir. Là. C'est tout ce côté humain-là, moi, qui m'intéresse. En même temps, il faut que ça reste, comme je disais, ça reste dans le suspense. Il faut que ça serve le but de on raconte une histoire.
Oui.
C'est un livre, c'est « Il était une fois », là. C'est ça.
Mais justement, ce personnage, il lui arrive des choses assez sombres, assez dures aussi, que quand on lit, on peut lever les sourcils, bref, on a une réaction faciale, là, je te confirme, quand on lit certains passages, mais quand on les écrit, ces passages-là qui peuvent être plus sombres, plus difficiles, est-ce que ça se passe aussi, l'émotion? Est-ce qu'on doit mieux choisir nos mots quand on décrit des scènes qui sont peut-être un peu plus difficiles?
Oui, puis venant d'un enfant, par exemple, je me mettais dans son cœur à ce moment-là. Un enfant qui voit des choses, il les voit pas comme nous. Alors moi, quand j'écris, c'est un livre, hein? C'est ça, là, ça c'est très important. C'est pas une histoire racontée, c'est écrit. Ou c'est pas filmé, on le voit pas, on l'imagine. Alors les mots sont super importants. Alors le travail, moi j'aime beaucoup retravailler. Chaque page est refaite, je sais pas, 20 fois, là. Retravailler jusqu'à temps que ça soit juste, là, très, très, très juste. Par exemple, les niveaux de langage. Par exemple, un enfant...
C'est important, ça,
c'est très important. Il faut que l'enfant parle toujours comme un enfant, mais tout d'un coup, il vient à 14 ans. Ah, ben là, à 14 ans, il dit pas les mêmes mots. Puis ici, c'est un voyou. Il parle pas comme prof d'université. Hein. Alors ça, je surveille beaucoup ça. Et quand je fais des scènes, qu'il y a des scènes un peu cruelles, même pas mal cruelles dans mon livre, mm-hmm. bien là, c'est sûr que je n'ai jamais vu des scènes comme ça, mais je les imagine. Et là, il faut trouver le mot qui va puncher, qui va faire tout de suite, justement, lever les sourcils ou, ou pleurer, tu sais. Il y a des gens qui vont dire, j'ai passé vite parce que, ouais, mais là, moi, c'est plus de 4 heures que je passe là.
Vous écrire ça, ben oui.
Non, mais je comprends, tu sais, c'est parce que c'est rough un peu des bouts, ouais.
Mais Richard, si on continue dans la psychologie, dans la vie de tes personnages, il y a un moment où Francis Pagliaro se perd dans ses souvenirs.
Ouais.
Donc, tu nous racontes ce qu'il se souvient finalement. À ce moment-là, comment on fait pour décider des souvenirs du personnage?
Ça, c'est drôle parce que c'est arrivé, j'ai décidé ça, le livre était presque fini, il me restait 15 pages à peu près. Puis j'ai décidé de rajouter ça parce que j'ai dit que ça serait une bonne idée. Mais là, le livre était fait. Mais en fait, j'ai jamais fait un livre, mais en tout cas. Mais tant qu'il n'est pas imprimé, il n'est pas fait. Mais là, j'ai cherché des endroits où je pouvais entrer ça. Entrer une petite. Oh, il y a un souvenir. À quelle place? Ben là, il y a une place. Il n'y a pas trop d'action. Là, il est dans son auto, je sais pas, il est dans chez eux, il pense à quelque chose. OK, je vais le mettre ici. Après ça, un peu plus loin. Un peu plus loin. Puis là, après ça, j'ai construit une petite mini-histoire dans l'histoire avec ces insertions-là. Alors, il fallait que je trouve, puis là encore là, c'est un travail d'écriture, là. Tu cherches la place où ça peut fitter.
Ouais.
Puis là, ben si tu mêles ça là, il faut que tu arranges le paragraphe avant puis le paragraphe après pour que ça fitte. Puis après ça, il faut que tu le relises pour voir si t'es pas en train de faire une bulle, comme dit mon ami Jean-Pierre. Tu racontes une histoire, puis il y a une bulle. Là, tu sors du sujet, puis tu t'en vas à gauche, puis à droite. Faut pas ça, là. Faut que tu restes dans...
Ou faut rattacher la bulle comme il faut.
Faut rattacher la bulle. Alors là, c'est un travail d'écriture, là, un travail mécanique, puis que moi, j'aime beaucoup. Puis ça, ça m'a permis aussi de montrer le côté humain de Pagliaro. C'est un policier. Moi, j'en connais des policiers. Je parle souvent avec certains, un qui est écrivain d'ailleurs, qui me donne des renseignements. C'est mon indicateur à la sûreté. Il me donne des renseignements sur comment ça se passe dans le milieu policier. Là. Il y a des policiers qui écrivent la poésie. Il y a des policiers qui jouent du piano. Il y a, bon. Alors moi, ce côté-là de Pagliaro, tous ces petits détails-là, ça me permet de l'humaniser encore plus, puis pour que les gens l'aiment comme moi je l'aime. T'sais.
Mais Richard, on se rend compte que le contact humain est très important, le côté humain. Et c'est pour ça que tu fais un lancement aussi de ton livre pour rencontrer les lecteurs.
Oui, lundi prochain au Cercle, les auditeurs, vous êtes tous invités. Il n'y a pas besoin d'une carte d'invitation. Même si vous achetez un livre, vous avez une consommation aussi.
Gratis. Voyons donc, en
ça
plus.
Ça fait que, regarde, là, c'est pas cher. Mais c'est surtout pour fraterniser. Moi, j'aime les salons du livre. Hein. Je fais de l'overtime, comme je dis. J'ai des heures, mais des fois, j'en fais plus parce que on apprend beaucoup des lecteurs qui nous disent « Ah, j'ai lu ton livre, telle affaire, j'ai vu ça. Ah ouais, oh, j'avais pas pensé à ça. » Puis la conversation nous amène partout. C'est bon pour la santé. J'aime le monde, fait que, tiens.
Mais Richard, on va parler un peu des activités parascolaires auxquelles tu as participé. Entre autres, Crimes à la librairie, qui est un recueil de nouvelles dans lequel il se passe des crimes à la librairie. Bon, le titre est assez clair. Comment tu as trouvé l'expérience de participer à ça?
Ben, au début, Richard Mignot, qui a soumis l'idée à l'éditeur Druide, celui qui fait Antidote, là, qui font des livres aussi, des beaux livres, il avait suggéré cette idée-là, Crimes à la librairie, avec une anthologie d'écrivains, tout ça, bon, de polar. Bon, ça, OK, ça marche. Puis là, il m'appelle, puis il me demande, je dis, ah, j'étais bien fier. Mais après ça, je dis, ah, Crime à la librairie, ah, là, je suis pas sûr, moi, que ça me tente. Là, j'aime pas beaucoup les affaires imposées. Tu sais, les concours où ils disent, ils donnent la première phrase, puis il faut que tu partes avec ça. Moi, je suis pas capable d'écrire comme ça, c'est impossible. Fait que j'ai dit, bon, j'ai mis ça de côté. Tout d'un coup, j'ai eu une petite idée. J'étais dans une librairie.
Puis justement.
Justement, puis j'ai dit, oh mon Dieu, oui, je vois un peu. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Et c'est encore mon policier.
C'est Francis Pagliaro qui revient,
oui. Puis ce livre-là, on est 16. Puis il y en a des très connus là-dedans. Il y a Patrick Sénécal, il y a Christine Brouillette, tu vois, il y a André Jacques. Il y a, bon, les plus connus, puis des moins connus. Il y a toutes sortes de monde, mais ils sont bons, puis ils sont très différents. Et ça, c'est stimulant, là. C'est vraiment intéressant pour être dans le livre, mais aussi pour les lecteurs, parce que ça fait sans dire d'une façon vulgaire, un catalogue. Tu vois, si tu regardes là-dedans, tu vois tout ce monde-là.
C'est un échantillon.
C'est un échantillon. Ouais. Tu dis, ah mon Dieu, j'aime ça. Puis c'est court, hein? C'est quelque part. On avait, je me rappelle plus combien de mots. On avait 6 000, maximum 4 000, je ne me rappelle pas. On avait une limite. La librairie, puis le nombre de mots. Après ça, free. Mais ça donne un échantillon de chacun des auteurs, puis il se vend bien. Au bout d'une semaine, ils l'ont réimprimé. Et je ne sais pas s'ils l'ont réimprimé encore, mais récemment, le fameux j'achète, le 12 août, j'achète un livre québécois, ben c'était le plus vendu. C'est formidable.
C'est un beau succès, mais justement, qu'est-ce que tu en penses de cette journée, de cette initiative?
Alors moi, je suis content de ça. Parce que ce que j'aime, c'est que les deux jeunes qui, ben c'est vrai, c'est quand même jeune, là, qui ont parti ça, c'est parti d'une émotion. Il était chez lui, puis il a dit, « Ah, oh, bon, ce sera le fun, une journée, le 12 août. » Pourquoi le 12 août? Ben c'est le 12 août qui avait appris que son livre serait publié dans, bon, une fois. Puis le 12 août, ça se dit bien.
Oui, c'est ça, 12 août.
12 août, 12 août, tu sais, 11 août, 12 août. À partir d'une impulsion comme ça, créatrice, là, de le faire sur Facebook, d'avoir 100, 200, 300, 1000, des coups 10 000 personnes, puis après ça, tu vois, dans les jours qui ont suivi, moi, dans mes amis Facebook, j'ai plein de libraires, puis d'associations de libraires, puis tout ça, d'écrivains aussi. Puis là, ben les chiffres sortent. Le lendemain, le surlendemain du 12 août, le 13 août, les libraires étaient contents parce que c'était une maudite belle journée.
Puis en plus, un mardi, donc c'était pas nécessairement le meilleur chiffre de vente, là,
non,
mardi,
exactement. Ouais. Puis ça fait connaître les livres québécois. Nous autres, les écrivains de romans policiers, on est un peu attristés que les gens achètent beaucoup plus les Américains traduits puis les Français, les Européens, alors qu'on on a des très bons romans policiers faits à maison, tu sais.
Oui, c'est ça. Alors qu'on a tendance à aller du côté traduit, finalement.
Oui, puis c'est ça. Alors que eux, leur marché est plus fermé pour le nôtre. Alors, c'est injuste un peu. Mais donc, ça fait connaître ceux qui écrivent des romans policiers. On a vu tous ceux qui ont été achetés. Là. C'est formidable. Une belle initiative. Et tu vois, j'ai vu... en France, il y a quelqu'un qui en fait un là, ces jours-ci pour acheter je sais pas quoi. Oui, ils ont copié l'idée qui est bonne.
Ben, c'est une très bonne idée d'ailleurs. Est-ce que tu as vu des gens qui ont acheté ton roman?
Oui.
Oui?
Oui, j'ai même sur Facebook, ceux que j'ai vus sur Facebook qui montraient la photo, je leur ai écrit à chacun. Moi, j'étais un peu maniaque. quand quelqu'un s'intéresse, je réponds toujours, toujours, toujours. Puis des fois, ben, ça devient des amis Facebook, on échange.
Mais est-ce que tu as une page fan Facebook? Est-ce qu'on peut être fan de Richard Sainte-Marie, auteur?
Ben, y en a qui suivent, là, mais c'est tout. Là, j'ai pas une page professionnelle.
Non.
Non, c'est personnel. Ben, mais c'est public, moi. Tout ce que j'écris là, le monde entier peut le lire.
Ben, on peut donc s'abonner à tes publications si on veut te suivre.
Absolument, puis savoir tout ce qui se passe. Puis Facebook, c'est formidable parce que mon lancement la semaine prochaine, mon éditeur, on a fait une liste, on a envoyé à des centaines de personnes, à la presse comme toi, comme tout le monde. Mais avec Facebook, c'est des milliers, parce qu'il y en a qui ont partagé. Puis là, ça veut dire même des gens qui sont mes amis en Belgique, en France, ils ne viendront pas. Mais ils savent que ça sort, puis ils ont vu la photo, puis c'est formidable. Hein? Ça dissémine.
Ça circule beaucoup, oui.
Ça circule, puis j'ai des feedbacks.
Mais Richard, donc c'est à partir du 28 août qu'on pourra lire « Repentir » avec un S entre parenthèses à la fin. Important, sinon on peut aller se le procurer en avance lundi prochain, le 25 août. C'est en 5 à 7 au Cercle. On invite les gens à aller faire un tour, à te rencontrer aussi, à discuter, à se faire dédicacer, tout ça.
Ça me ferait bien plaisir.
Et évidemment, on va te recroiser au Salon du livre en avril prochain.
Oui.
Si jamais on n'a pas eu la chance de te croiser au lancement pour la dédicace. Richard Sainte-Marie, merci beaucoup.
Mais merci d'avoir pensé à moi. Merci.